ovale sans ellipse, table ovale sans ellipse, animée par Claude Devezin, avec ce soir à Villefranche, Angelo Andreotti pour le Parti communiste, Christophe Pourcel pour l'Union démocrate et indépendant, Jean-Louis Calmette pour Europe Écologie Les Verts, Laurent Bourillon pour le Front National et Laurent Tranier pour l'Union pour un mouvement populaire. Et notre sujet ce soir, c'est quelle appréciation locale et nationale portez-vous sur les reports, les fusions, les distinctions d'élections locales auxquelles nous assistons depuis un certain temps, c'est-à-dire un peu plus de 3 ans. Évidemment, au travers des changements de calendrier électoral, la question de la pertinence des délimitations géographiques est aussi posée. Alors j'ai fait un petit résumé, je ne suis même pas sûr d'être exhaustif. Il y a 6 étapes de mon point de vue, mais je compte sur votre culture politique à tous pour compléter mes carences. Et on avait d'abord eu droit à l'installation de conseillers territoriaux. Enfin, on projetait d'avoir des conseillers territoriaux, c'est-à-dire qu'ils seraient élus pour le département et pour la région. Après quoi, on a eu une délimitation de nouveaux cantons, avec d'ailleurs, rappelons-le, un scrutin paritaire binominal, qui est une singularité extrêmement démocratique et extrêmement française, donc la délimitation de nouveaux cantons qui devenaient très vastes ou très restreints, très urbains et très vastes quand ils étaient ruraux. Après quoi, on a eu le report des élections locales, parce que c'était... Et puis, on nous a annoncé la suppression des départements, dont on venait de redistribuer les cantons. Après quoi, on nous a annoncé qu'on allait regrouper les régions, et puis on nous a dit qu'on allait conserver finalement certains départements, peut-être pour préserver quelques principautés. Et je crois qu'on en est là, mais pour l'instant, on est en débat au Sénat, plutôt sur le regroupement des régions, si j'ai bien compris. Tout ça, paraît-il, pour faire des économies. Est-ce que c'est pour faire des économies, pour complaire à l'Europe, pour mieux s'organiser, et quelle économie nous ferons? Alors, sur ces étapes, et puisque la première d'entre elles, c'était vos amis qui l'avaient mis en place, Monsieur Tranier, qu'est-ce que vous nous dites sur ces multiples étapes de la réforme territoriale, Monsieur Tranier, de l'UMP?
Oui, bonsoir à tous. Alors, ce que vous venez de nous décrire illustre à la fois la complexité de l'organisation des collectivités locales en France. Et aussi la confusion et l'improvisation, la confusion et l'improvisation qui semble présider à l'action du gouvernement, qui est quand même aujourd'hui le principal responsable de tout cela. Alors vous auriez pu rajouter un progrès qui était salué comme un progrès par tout le monde de la précédente réforme, celle de François Fillon il y a 4 ans, qui était la suppression de la clause de compétence générale pour les départements et les régions. Aujourd'hui, toutes les collectivités en France ont le droit d'intervenir dans tous les domaines, en gros, ce qui multiplie les doublons, les complexités, les confusions. Le gouvernement
privé, ça
actuel,
s'appelle un tour de table. Hein.
Le gouvernement actuel l'a rétabli et songe maintenant à la supprimer parce que effectivement c'est un problème. Voilà. Donc c'est une première réflexion générale, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'entrer dans les détails.
Monsieur Calmette, pour Europe Écologie Les Verts.
Oui. Alors si vous le permettez, avant de parler de la réforme territoriale, j'ai une pensée ce soir à un jeune homme qui s'appelle Rémi Fraisse, qui a été assassiné dans la nuit de samedi à dimanche. Un jeune homme que j'ai dû sûrement croiser puisque j'étais samedi soir à Sivin. Et je dois dire que je suis très ému là-dessus. Hein. J'étais samedi donc à Sivin, et notamment lors des premiers chauffourées. Je suis resté une paire d'heures, mais vraiment sur le front, à exhorter, avec d'autres bien sûr, non violents, à exhorter les policiers à se retirer, qu'ils n'avaient rien à faire là, il n'y avait rien à protéger. Il y avait juste un groupe électrogène tout vieux, qui avait été brûlé la veille. Je pense qu'on est quand même loin d'un hôtel des impôts ou d'un bâtiment du MSA qui est brûlé. Ils n'avaient rien à faire là, ce jour-là. Et ce qui devait arriver, arriva. Parce qu'ils étaient d'une violence immense. Je suis très ému et je pense beaucoup à lui, je pense à sa famille. C'était quelqu'un qui était passionné d'écologie, de botanique. Voilà, je tenais quand même, avant de parler de la réforme territoriale, faire ce petit hommage. Voilà.
Bonjour à tous, bonsoir, excusez-moi.
Laurent Bourillon pour le Front National.
Je trouve ça fait dommage la mort de ce jeune homme, qui a mon âge en plus, donc ça aurait pu être un ami à moi. Mais je trouve encore plus dommage ce qui se passe à Gaillac ou à Albi, ces jeunes qui font de la casse partout, qui ont dégradé un monument aux morts, qui ont des châtaignes dessus. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ouais. Bon.
J'aimerais qu'on ne change pas de sujet, et en plus...
Je tenais à le signaler, comme quoi...
Monsieur Calvet a fait la distinction, justement, entre un vieux groupe électrogène et, effectivement, des barrages urbains.
Il est dommage que ce drame serve à des casseurs pour... Voilà.
Monsieur Calvet, revenons à la réforme territoriale.
Moi, j'aurais d'abord quelque chose à dire, c'est que, est-ce que vraiment la population... C'est quelque chose qui intéresse réellement la population. Moi, je suis pas sûr. Ils sont plus inquiétés par le chômage, ils sont plus inquiétés par leur pouvoir d'achat, ils sont plus inquiétés même sur les questions de climat et des questions d'énergie et des questions d'écologie, de plus en plus, que sur la réforme des collectivités territoriales.
Ça pose un peu la question du pourquoi.
Voilà. Alors que ça intéresse certains élus qui, bien sûr, veulent garder un peu leur pouvoir et leur indemnité, je peux bien le comprendre à la limite. Alors, moi je pense que sur cette réforme, il y a beaucoup d'improvisation, beaucoup de propositions qu'on renie le lendemain pour en refaire d'autres propositions. Je crois que c'est pas clair sur la forme. Après, peut-être on reviendra sur le fond. Voilà, mais sur la forme, pour beaucoup d'improvisation, et encore aujourd'hui, on ne sait pas trop, on ne sait rien sur les compétences, on ne sait rien sur les moyens financiers, on ne sait rien du tout.
On ne sait rien du tout, mais sur enfin, vous les avez des parlementaires qui sont en train d'en débattre.
Ils sont en train d'en débattre, mais je parle de l'amateurisme du gouvernement sur ce sujet-là.
Monsieur Andréotti, pour le Parti communiste.
À partir de cette problématique, je dirais que pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour porter une appréciation et au niveau qui est le sien. J'ai là, par exemple, une lettre, c'est publié dans le Villefranchois, à l'issue des précédentes élections. On sait qu'avec ce scrutin, c'est pour 6 ans. Bon, on ne va pas redire ce scrutin, il va être binominal, hein, comme vous l'avez indiqué.
Paritaire, binominal.
Paritaire, c'est bien. Par rapport à d'autres points, donc je vais rapidement évoquer ce qui était dans cette lettre essentielle, c'est-à-dire s'adresser aux élus en leur demandant, dans l'état qui était celui de la première mouture, puisque depuis, vous le savez, Ce projet a donné lieu à 3 volets, nous en sommes au second, et à l'état où était la première mouture, il y avait de grandes inquiétudes, et les principales sont d'ordre démocratique, puisque, on le sait, on va créer, on le sait ou on ne le sait pas, mais on va obliger les communes, c'est une obligation, avec un seuil d'habitants à atteindre qui sera de 20 000, il est actuellement de 5 000, par exemple. Et pour les agglomérations plus importantes, pour être de 400 000, on va faire d'abord fonctionner cette nouvelle donne avec des villes comme Toulouse, etc. Alors, dans cette lettre, Guy Drilin, qui était adjoint à Honnay...
Vous parlez de quoi, là, des métropoles ?
Non, je parlais de la réforme dans sa première mouture. Et comme, sur certains aspects, les inquiétudes qu'elle faisait naître, c'était Guy Drilin qui était adjoint au maire à Honnay-le-Château, qui s'adressait aux élus, c'était dans le Villefranchois à la fin de 2011, et il s'avère, je disais au début, qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour s'apercevoir que cette réforme était une machine au service de la mise en concurrence, les mots figurent dans les textes, en compétition, il s'agit de créer une taille importante, d'avoir une force de frappe. C'est ce que l'on trouve aussi dans le journal de Midi-Pyrénées, officiel, que je peux vous citer. Donc, tout ce qui est venu depuis 2011 confirme ces inquiétudes. Et je répète, l'élu communiste du Front de Gauche aujourd'hui, c'était groupe... communistes, républicains et citoyens à l'époque, avaient déjà fait ce travail en direction des élus pour leur demander ce qui est nécessaire, ne pas changer la donne sans consulter les citoyens, car il n'y a pas de démocratie et ce projet avance à la hussarde et je ne dirai rien pour l'instant que ce mot. Il est même prévu de supprimer l'envoi postal à domicile des professions de foi dans le projet de loi pour les élections de 2015. et des bulletins de vote. Il s'agit de faire des économies à tout prix. Donc voilà, je m'arrête là pour l'instant, mais ces inquiétudes de 2011 se confirment aujourd'hui et nous étions les premiers.
Monsieur Bourillon, pour le Front National.
Oui, donc moi je pense que cette réforme, elle sert juste au PS à gagner du temps. Car on nous balance des nouvelles régions, des super régions, sans l'avis du peuple déjà. Je trouve ça honteux. Le peuple a quand même le pouvoir, le peuple est souverain. C'est nous qui décidons, ce n'est pas le gouvernement qui peut nous indiquer des frontières, j'appelle ça des frontières, où on va sûrement perdre nos traditions, nos régions. Alors, c'est bien beau de prendre l'exemple de l'Allemagne, mais au bout d'un moment, on est français, il faut savoir être français. Voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pense qu'il sert juste à gagner du temps, mais il prendra une débâcle aux prochaines élections. On l'a vu, le premier parti de France, c'est le Front National. Alors, on peut dire que c'est l'abstention, mais je ne suis pas du tout d'accord, parce que je vois monsieur sourire en face. Voilà.
Monsieur Porcel, pour l'UDI.
Bonsoir à tous. D'abord, je voulais m'associer à tout le monde, évidemment, pour présenter mes condoléances à la famille de Rémi Fraisse. Je crois que c'est toujours dramatique quand un jeune de 21 ans décède, donc je pense à sa famille et à ses proches. Le débat de ce soir, il est un peu compliqué parce qu'on parle d'une réforme dont on ne connaît pas encore les contours. C'est une réforme qui a changé au fur et à mesure des gouvernements successifs et des équipes successives. Pourquoi une réforme ? Est-ce qu'il faut une réforme ? Tout le monde pense que oui. Je pense qu'ici autour de la table, tout le monde pense qu'il faut une réforme, qu'il faut faire des économies. Mais la réforme là est plutôt dans un sens de préserver les intérêts de certaines personnes, avec du coup des contours qui ignorent complètement les bassins de vie. Là, je suis d'accord un petit peu avec vous, c'est-à-dire qu'il faut d'abord demander aux élus locaux un petit peu quelle cohérence, quelle cohésion territoriale. Après, nos régions, est-ce qu'il faut les regrouper ? Oui, moi je pense qu'il faudrait aller encore plus loin. À l'époque, moi j'ai soutenu le conseiller territorial. Je trouvais bien qu'il y ait un élu qui ait un ancrage local et qui soit également dans une structure plus grande pour porter des projets un petit peu transversaux. Donc voilà, c'est un débat compliqué, mais je suis d'accord avec M. Calmette, je pense que les Français s'en fichent, je pense que les Aveyronnais s'en fichent, je pense que les Aveyronnais, ce qu'ils veulent, c'est des élus locaux, des élus de proximité, des élus qui connaissent leur territoire, qui connaissent leurs administrés, et voilà.
Enfin, si les territoires sont déniés, ça va être difficile d'avoir des élus pour ces territoires. Parce que vous... Alors, on va peut-être venir au pourquoi, à quoi ça sert, hein, puisque sur les délimitations, je vous y ferai sûrement revenir quand même, pour qu'on voit, encore une fois, vous avez des parlementaires qui sont en débat en ce moment là-dessus. Donc, normalement, vous avez des répercussions et vous pouvez être porteur d'une parole sur ce que sont les délimitations des collectivités territoriales. Mais on va peut-être l'aborder par l'autre extrémité de la lunette, c'est-à-dire pourquoi, à quoi ça peut servir. On va pas dire pourquoi, parce que vous allez de toute façon dénoncer rapidement, et vous êtes là pour ça, des arrière-pensées, mais à quoi ça peut servir ? Est-ce que c'est pour faire des économies ? Si on fait des économies, comment fait-on ? On brûle les bâtiments vides, on les transforme en logements, on licencie les fonctionnaires territoriaux, parce que c'est ça, des économies. Alors comment fait-on des économies ? Est-ce que c'est pour complaire à l'Europe ? Et pourquoi ? Parce qu'après tout, il y a d'autres pays qui ont des circonscriptions plutôt plus petites que nos régions, que nos grandes régions actuelles. Hein. Alors, pourquoi ? À quoi ça peut servir ? Est-ce que vous avez une idée, Monsieur Bourcel, pour l'UDI ?
À la base, c'était pour simplifier le millefeuille électoral. C'était bien ça. Et pour faire des économies. Voilà, c'était les deux points principaux. C'était aussi pour permettre aux Français d'identifier qui avait les compétences de quoi. Aujourd'hui, tout le monde finance tout le monde fait n'importe quoi, et je pense qu'il faut budgétiser les choses, il faut clarifier les compétences de chacun, pour pas qu'il y ait de doublons, et je pense que c'est comme ça qu'on fera des économies.
Monsieur Andreotti, à quoi ça peut servir ?
Les Français savent très bien, au contraire, ils veulent garder leur identification politique et citoyenne se fait au niveau de la commune. Dire que aujourd'hui tout le monde fait n'importe quoi, pas du tout.
J'ai pas dit ça.
Les communes gèrent en connaissance parfaitement le terrain, et d'ailleurs je vais vous épargner toutes les citations, elles sont de tous bords, hein, mais pour reconnaître le travail qui est fait localement, et dont on se demande qui pourra bien le faire en dehors de ses compétences locales. D'autre part, il y a le problème que j'évoquais, celui d'une proximité. En effet, on va donner aux super-agglomérations, je l'ai dit tout à l'heure, le texte oblige à s'agglomérer dans des intercommunalités d'une certaine taille. Les agglomérations, les super-agglomérations auront un pouvoir prescriptif sur les autres collectivités. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a pouvoir prescriptif, c'est-à-dire que c'est elles qui vont donner les limites et les ce qu'on appelle les distinctions vont disparaître aussi, puisqu'on va changer des mots, hein, mais en même temps, on va changer pour les citoyens complètement le rapport aux élus. On va créer des baronnies, d'immenses agglomérations qui auront un pouvoir prescriptif, c'est-à-dire comme un médecin qui prescrit une ordonnance, avec des préfets qui sont maintenus.
Alors, si je vous suis bien, monsieur Andréotti.
Par conséquent, je conteste totalement cette idée de millefeuille qui gênerait les Français. Ça a été un mythe que les libéraux ont inventé pour s'attaquer à cette proximité et à ce pouvoir de résistance d'élus et pour imposer dans une Europe fédérale une austérité généralisée et une concurrence entre territoires.
On vient de découvrir que les communistes sont conservateurs et l'UMP,
bon,
M. Tranier, demande la parole.
Je ne sais pas si c'est une découverte, mais c'est vrai que...
Conservateur, on veut consulter les citoyens pour une 6e République, d'ailleurs.
Après, il me semble difficile de contester la réalité de ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Et difficile de contester aussi l'inefficacité de l'action publique qui en découle largement, la complexité, le caractère illisible et incompréhensible pour les citoyens. Monsieur Andréotti, vous êtes un peu contradictoire quand vous soutenez ce millefeuille et en même temps vous aimeriez
que
les citoyens comprennent.
Abuser comme toutes les pâtisseries.
Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'adapter notre organisation territoriale, nos collectivités, aux réalités vécues sur le terrain. Et donc, il faut sortir des démarches dogmatiques ou des démarches ou des politiques du chiffre ou des politiques du seuil. Aujourd'hui, il existe des réalités qu'on appelle les bassins de vie, qui sont concrètes, qui sont mesurées. Un bassin de vie, c'est, si on prend l'exemple de Villefranche, les 30 000 habitants qui vivent autour de Villefranche et qui viennent se soigner à Villefranche, faire leurs courses à Villefranche, etc. Et la même chose est reproductible dans beaucoup de bourgs plus petits ou de villes plus grandes. Et c'est à cet échelon-là qu'il est pertinent, effectivement, de s'organiser quand on est une collectivité pour mettre en place des transports en commun.
S'organiser, c'est quoi ? C'est une communauté de communes ou
c'est les communautés de communes.
Le monstre que nous écrit M. Andréotti.
Non, c'est les communautés de communes. Mais M. Andréotti évoquait tout à l'heure le chiffre de 20 000, qui est le seuil qui semble être retenu par le gouvernement, mais on ne sait pas, parce qu'on ne sait rien, en fait, ça change tout le temps et c'est flou. Disons que c'est le chiffre qu'on a entendu qui serait un seuil minimum pour la taille des intercommunalités. 20 000. Pourquoi ? Parce que c'est, disons, peut-être le niveau qui permet d'avoir des services efficaces et compétents, et des compétences dans un peu tous les domaines de l'action d'une commune. Mais si on prend l'exemple de l'Aveyron, 20 000 habitants, autant pour nous ici à Villefranche, ça peut être pertinent, mais il y a tout un tas de territoires qui sont ruraux ou très ruraux, où 20 000 habitants, ça n'a aucun sens, parce que ça recouvre des territoires immenses et qui n'ont rien en commun. Donc peut-être que, suivant les territoires, l'échelle c'est 5 000 ou 50 000. Ou 80 000 pour l'agglomération ruthénoise. Donc déjà, il faut essayer de sortir des politiques de chiffres.
Dans le système de bassin de vie, parce que là, on bouge. Dans le système de bassin de vie, vous supprimez des communes, vous créez des associations en maintenant les communes et en maintenant les départements.
En France, il y a 36 000 communes. Bon, ça, c'est à peu près deux fois plus que dans tout le reste de l'Europe. on voit bien concrètement qu'il y a des communes toutes petites qui n'existent qui n'ont qu'une identité, mais qui n'ont pas de moyens d'action, où les élus ont la capacité de faire très peu de choses. Et aujourd'hui, il y a la possibilité offerte par la loi de créer des communes nouvelles en fusion, par la fusion de communes existantes. Et c'est probablement une direction qu'il faut poursuivre. Et je sais qu'il y a des élus locaux nombreux qui réfléchissent à cette direction-là, y compris en Aveyron. Donc probablement qu'il y a certainement beaucoup trop de communes en France. Peut-être qu'un certain nombre d'entre elles auront intérêt à fusionner. Mais là aussi, je rejoins ce qui a été dit, ça doit être la volonté des élus locaux concernés et celle des populations, qui à mon avis doit être consultée dans ces contextes-là. Voilà.
Alors, à ma question, à quoi ça peut servir, Monsieur Tranier nous répond à améliorer les services pour les habitants. J'ai noté qu'on n'a pas vraiment parlé d'économie d'ailleurs. Monsieur Bourillon, à quoi ça peut servir une réforme territoriale ?
Alors, je rejoins mon camarade de l'UDI. Je suis d'accord sur le millefeuille et sur les doublons surtout. On a revu avec le redécoupage des cantons, on a autant d'élus qu'avant. Moi, je suis pour qu'on en supprime la moitié. Je le dis tout simplement parce que ça sert à quoi de refaire un redécoupage de cantons si on n'enlève pas d'élus ? Les gens, les Français ont une mauvaise image des politiques. Ça, il faut le savoir. Grassement payés et qui ne servent à rien. On voit les salaires astronomiques, monsieur, vous ne pouvez pas dire le contraire. Donc voilà, les doublons...
Un maire de chef-lieu de canton de l'Aveyron, d'une ville, d'une commune de 1200-1500 habitants, son salaire ne me paraît pas astronomique.
Il y a beaucoup de bénévoles dans les conseillers, il ne faut pas les oublier.
Il y a beaucoup de cumuls de mandats aussi. Oui, voilà. Je vais vous citer, parce que souvent, ils ne sont pas que maires. Ils sont présidents de la communauté des communes. Ça... Oui, c'est des exemples, si vous voulez.
Étant encore sénateur ou député.
Ben, il y en avait un bien connu qui n'est plus sénateur. Il est encore tout le reste, mais.
Après, on peut.
Je vous écoute.
Une parenthèse, on peut encore regretter l'absence autour de la table de nos amis socialistes et radicaux de gauche qui ne pourront pas défendre ce qui est fait par le gouvernement, malheureusement.
Oui, bon, il y a quand même eu.
On a les feux, Europe Écologie et Vert, et quand même un peu le Parti communiste.
Il y a quand même eu 2627 recours contre ce redécoupage. Et donc, ce ne sera pas traité avant la fin de l'année 2014. D'après l'annonce du tribunal administratif, il y a encore 500 dossiers à traiter. Donc, les dates des cantonales ne sont même pas sûres. Donc, est-ce qu'après, on peut commencer à parler des régions ?
Le 22 et le 29 mars.
Normalement. 2015. Mais il me semble 2015. Qu'il y a 15 jours ou la semaine dernière, ils ont annoncé que cela pouvait encore changer.
Mais parce que pour l'instant, on est à 5 mois d'un scrutin dans lequel on ne sait pas qui on va élire, sur quelle circonscription et pourquoi.
En pleine improvisation.
Voilà.
Alors, c'est vrai que vous avez raison, c'était fait normalement cette réforme territoriale pour faire des économies. Mais c'est vrai qu'on ne fera pas des économies des élus, hein. On garde les mêmes strates et on garde le même nombre d'élus et on rajoute la métropole. Moi, j'étais content quand j'ai vu qu'on agrandissait le canton, donc qu'on diminuait le nombre, qu'on divisait le nombre de cantons par deux. Mais sauf qu'on a quand même deux fois plus de conseillers généraux par canton, ce qui est une aberration complète, quoi.
Ce qui reflète le gouvernement actuel. Le gouvernement actuel ne peut pas proposer un redécoupage de canton quand on sait que 90% de la population n'est pas content du président, du gouvernement actuel. Donc comment il peut se permettre de faire ceci sans demander l'avis au peuple ? J'aimerais qu'on me réponde sur ça.
Il y a des exemples, quand on a essayé de redécouper autoritairement en Alsace, regrouper de départements et en Corse la population, quand elle a été consultée, elle a dit non parce qu'elle a senti qu'on lui imposait quelque chose. Alors, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, nous ne défendons pas du tout cette réforme, hein, au Parti communiste ni au Front de gauche. Et par ailleurs, je vais juste pour laisser la parole, préciser qu'en effet, on veut diviser le nombre d'élus par deux. Pour moi, c'est antidémocratique et extrêmement inquiétant. Si on veut faire des économies, je peux proposer d'autres solutions. Non, mais il ne s'agit pas de les prendre et de faire de l'antiparlementarisme et de créer une sorte de climat autour des élus, d'antiparlementarisme, je ne sais quoi. Hein. Je trouve ça assez malsain. Je veux bien qu'il y ait... nous sommes partisans, d'ailleurs, de la fin des cumuls des mandats, hein, depuis longtemps. Hein. Ce n'est pas le problème que là-dessus, je suis d'accord. Par contre, pour finir, je reviendrai sur ce point, le dernier. Des économies, on n'en fera pas. D'ailleurs, il y a eu une enquête, une étude faite de manière très, très solide.
Une étude de qui, s'il vous plaît ?
Ah, mais ça, si vous permettez, mais je ne veux pas faire perdre. Je ne veux pas vous faire perdre beaucoup de temps. Mais
parce que des études, même les clous peuvent en faire.
C'est une étude sur les coûts de ces fusions, de ces redécoupages. Il n'y aura pas d'économie. Parce que d'abord, on va donner des compétences nouvelles à des instances qui ne sont pas en mesure actuellement, n'ont pas le personnel, qui vont devoir les regrouper. Par exemple, pour des lycées, on va avoir en plus les collèges dans les régions. Il y a des compétences qu'ils n'ont pas sur les voiries, par exemple. Il va falloir former du personnel, ou le rattacher, ou le déplacer, et créer des structures nouvelles. Ce n'est pas qu'un problème technique. Donc, cette étude, si vous voulez, en aparté, je vous la montrerai tout à l'heure.
Je veux bien, oui.
Je ne vais pas retarder, il n'y a qu'à parer la parole. Mais cette étude très sérieuse a été présentée en commission des lois, au Sénat. Et effectivement, ils n'envisagent pas d'économie avant au moins 10 ans, si tant est que ça marche bien.
Alors, monsieur Bourcel, est-ce que vous allez nous dire à quoi ça peut servir, diable, si ça ne fait pas d'économie et...
Tout à l'heure, quand je parlais du millefeuille territorial, je ne parlais pas des élus locaux, parce que l'élu local, il coûte pas cher, il connaît son territoire. Et,
mais il se fait aider quand même. Hein.
Il se fait aider, non, mais c'est un relais indispensable pour conduire une bonne politique territoriale, je pense. Moi, je suis quand même content que cette réforme amène la parité. Ça, c'est plutôt bien, on devrait tous se réjouir ici de ça. Mais à part ça, on ne voit pas trop quel est l'intérêt de cette réforme, puisqu'on a dit et on le redit, il n'y a pas de diminution du nombre de conseillers. Puisque les conseillers seront toujours au nombre de 46 pour 23 cantons au lieu de 46 cantons. Et d'ailleurs, il y aura une difficulté, puisque ce ne sera même pas un titulaire, un suppléant, ce sera deux plein titre. Et donc, est-ce qu'ils vont se partager le territoire? Est-ce qu'ils vont chacun avoir des compétences particulières, du coup, pour ne pas se marcher sur les pieds? Qui va inaugurer telle chose? Qui va s'occuper de tel dossier? Et du coup, l'élu local, quand il aura un dossier à défendre, il ira voir quel... lequel des deux. Donc là, c'est vraiment pas évident au niveau des compétences de chacun. Moi, je pense qu'une fois qu'une réforme a établi des compétences, il faut en face mettre les budgets. Et je pense qu'il faut être beaucoup plus courageux que ça, notamment au niveau de la réforme territoriale, au niveau des régions. Moi, je crois vraiment à des grosses régions capables de pouvoir porter des gros projets. Et je trouve qu'on devrait aller beaucoup plus loin sur cette réforme-là.
Ah ouais, ça pose la question de à quoi ça sert, parce que apparemment vous êtes un des rares autour de la table à vouloir de grosses régions.
Oui.
Avec Europe Écologie.
Moi j'étais un petit peu parti sur le téléphone, vous savez, 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire l'Ouest, l'Est, Paris et Île-de-France, et voilà. Après, je pense qu'il faut faire du cas par cas. En Aveyron, on n'a pas de grosses villes, de grosses agglomérations. Vous prenez Lyon, par exemple. Lyon, il serait normal qu'il devienne un département, enfin ce qu'on appelle nous un département. Puisque autour de Lyon, enfin c'est Lyon qui gère tout.
Mais qu'est-ce que vous ferez avec des régions aussi grandes que ce que vous venez de décrire ? Quel sera l'avantage d'avoir des régions aussi amples ?
De pouvoir porter des vrais projets, d'avoir un vrai budget, d'avoir une vraie force par rapport aux autres régions européennes.
Monsieur Calmette.
Oui, alors, je suis bien sûr, comme Monsieur Pourcel, pour des régions fortes, mais peut-être pas obligatoirement des régions très grosses, quoi. Hein. Je pense que, éventuellement, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, je pense que ça pourrait aller très bien. Bon, il semble que ça se passera pas comme ça, mais c'est pas sûr. Par contre, nous, dans les échelons, dans le millefeuille des collectivités, on voulait quand même une commune qui soit importante, peut-être en essayant de diminuer le nombre de communes, parce que 36 000 communes, il y en a des communes de 200 habitants, même oui, des communes de beaucoup moins.
Il y a des communes où il y a moins d'habitants permanents.
Je pense que là-dessus, il faut faire quelque chose. Favoriser tout ce qui est intercommunalité, qui deviendrait réellement une collectivité importante, et supprimer l'échelon départemental. La communauté de communes pourrait traiter directement avec la région qui serait peut-être un peu moins grosse que l'envisageait M. Pourcel. Mais le département ne se justifie pas, ça existait. À l'époque de, où on les a créés, parce qu'il fallait une journée pour aller à cheval à Rodez, de Villefranche ou de Decazeville. Maintenant, de Villefranche ou de Decazeville, on va à Rodez en trois quarts d'heure. Donc je pense que là, j'ai... enfin trois quarts d'heure, une heure, je m'excuse. Voilà. Donc ça se justifie pas le département. Voilà. Si on avait voulu faire des économies, c'était une strate qu'on aurait pu supprimer, comme ne pas créer la métropole, par exemple. Voilà.
Alors on nous a dit qu'on allait les supprimer, et après on nous a dit qu'on allait en garder quelques-uns. Est-ce que quelqu'un autour de la table est au courant des quelques-uns? Monsieur Tranier, ça a l'air de vous amuser beaucoup.
Oui, non, je suis pas au courant. J'ai, hélas, non. Je sais pas si quelqu'un en France est au courant de ça d'ailleurs, puisque là aussi, on est en pleine improvisation. On nous avait dit qu'il resterait une quinzaine de départements très ruraux. On ne sait pas pourquoi 15, ni lesquels. Puis semble que Monsieur Baillé, donc le président du Parti radical de gauche, les radicaux ne sont pas là. Pour se faire consoler d'avoir été battu aux élections sénatoriales et obtenu qu'il y ait 50 ou 60 départements qui soient maintenus, mais on ne sait toujours pas lesquels ni sur quels critères.
Ça ne veut pas même à mon avis.
Donc oui, donc c'est, voilà. c'est ce que je dis, c'est que vraiment on est dans l'inconnu la plus totale. Hein, donc en réalité, on va même voter en principe donc en mars pour des élections.
5 mois.
Moins de 5 mois. Donc on n'est même pas sûr de la date, mais derrière on ne sait pas vraiment pour quelle collectivité, le conseiller général étant voué à disparaître ou pas, et à ses compétences à évoluer ou pas. Donc c'est vrai que c'est quand même difficile à concevoir hein, pour un pays comme la France d'être gouverné de cette façon-là. Bon, on était venu donc à la question des régions. Je voulais en dire un mot. Je suis pas convaincu que le problème des régions soit un problème de taille nécessairement, mais peut-être si on se compare là aussi avec d'autres pays où les régions sont l'échelon de référence et sont plus puissantes, on se compare tout le temps avec l'Allemagne ou l'Espagne, on dit les régions sont plus puissantes et ont plus de moyens, et c'est vrai, elles ont des budgets bien plus importants et des interventions plus importantes, c'est peut-être déjà un problème de compétences des régions, qu'est-ce qu'on leur confie, et de moyens là aussi. Le risque étant si on les fusionne, que celui de l'éloignement des collectivités de base et des citoyens de base. Il faudrait pas reconstruire pour notre région une sorte de Toulouse et le désert midi-pyrénéen Languedoc-Roussillon, voilà. Donc là, s'il faudra trouver un nom si la fusion va au bout, comme on l'a fait avec Paris et le désert français à une époque. Parce qu'aujourd'hui, le risque est quand même celui de ce déséquilibre-là dans l'aménagement du territoire, avec une concentration très forte sur Toulouse, sur Montpellier aussi, et au détriment de territoires comme les nôtres, qui sont quand même enclavés, qui ont un certain nombre de difficultés structurelles, qui ont des atouts aussi. Mais si les régions s'agrandissent, comment demain faire valoir nos intérêts sur nos territoires qui sont peu peuplés? Comment ou d'autres qui sont encore plus, je sais pas, je pense
ça. Ça pose beaucoup de questions, mais ça nous dit pas ce que vous, UMP, vous faites des départements.
Nous on les garde.
C'est clair,
oui, parce que.
Donc vous gardez les communes,
moi je les garde. Moi je les garde.
Vous agrandissez les régions.
Non, parce que sur les communes, je les fusionne. Hein. Si vous me demandez mon avis, je crois que beaucoup gagneraient à cette fusion, avec l'accord, je l'ai dit, encore des élus et des populations. Au profit des intercommunalités, qui sont, à mon avis, à l'échelon du bassin de vie, l'échelon important pour l'intervention publique. On garde les départements parce que sinon, nous, à Véronée, j'ai peur qu'on se trouve perdu dans une grande région. Aujourd'hui, le département a quelques compétences qui sont quand même importantes, celles des routes, par exemple. Si je prends l'exemple de notre rocade sud à Villefranche qu'on attend depuis quelques décennies, qui aujourd'hui peut-être progresse, avance, disons, le projet semble avancer. Mais si demain, c'est la région Midi-Pyrénées qui est chargée de ce projet-là, je ne sais pas ce que va peser la rocade de Villefranche-de-Rouergue au regard du grand contournement de Toulouse ou d'autres axes qui sont très importants certainement. Voilà. Donc, essayons de préserver les équilibres et puis de veiller à l'aménagement du territoire. Qui n'est pas du tout une préoccupation de l'État aujourd'hui, enfin du gouvernement actuel, et le risque dans toutes ces réformes et ces agrandissements de collectivités, c'est que demain, on oublie les territoires très ruraux, parce qu'on parle beaucoup de métropole, mais on parle très peu de la ruralité.
Dans tous ces chamboulements, sur lesquels vous n'êtes à peu près aucun d'accord, puisque par deux qui veulent agrandir les régions et supprimer les départements, les autres veulent les garder, je suis un peu étonné, mais peut-être parce que je me pose des questions qui n'en sont pas. J'avais entendu dire depuis très longtemps que la République était une, indivisible. Et on a un petit parfum dans certaines des réformes annoncées. On a un petit parfum de fédéralisme qui devrait en inquiéter quelques-uns autour de la table. Et ça, vous n'en parlez pas. Ça, l'organisation administrative vous préoccupe, les économies éventuelles vous préoccupent, les projets vous préoccupent. Tout ça est excellent d'ailleurs. Et apparemment, vous n'êtes pas inquiet sur l'intégrité de la France.
J'ai précisé qu'au début, que le français avec des traditions par région. Nous avons le patois, nous avons une culture, une cuisine qui n'est pas pareille que celle de Montpellier par exemple. Donc on ne peut pas découper ça n'importe comment. Pour les régions, une solution serait les découper, mais pas n'importe comment. Pour l'instant, on a vu la carte, rien ne va. Donc je pense qu'il faudrait y réfléchir dessus. Mais je laisse quand même la priorité au vote français.
Sur oui, Monsieur Andréotti, si vous voulez, sur cette éventuelle menace sur l'intégrité nationale, qui est peut-être dans un de mes fantasmes, hein, je ne sais pas, mais
l'identité nationale, l'identité française se perd.
Le fait d'avoir des entités extrêmement puissantes, dissociées les unes des autres.
Je ne crois pas que ce soit ça qui inquiète. D'ailleurs, pourquoi qui s'opposerait à des coopérations européennes? On ne demande que ça, mais il n'y en a pas. Les seuls qui existent, c'est pour déréglementer, déréguler. Alors je voulais répondre, et je trouve très étonnant, que les représentants de la droite, il n'y a pas ceux du Parti Socialiste, mais d'autres, qui pourraient soutenir cette réforme, et prétendre que cette nouvelle réorganisation des territoires et des compétences allait permettre d'améliorer le service rendu aux populations, alors qu'on privatise à tout va, et la droite a commencé.
Et la gauche continue.
Je trouve ça, attendez, s'il vous plaît, je trouve ça très étonnant, c'est pas votre problème d'ailleurs, monsieur.
Ça l'est quand même, je suis français, c'est mon pays, monsieur.
L'ultralibéralisme, c'est votre domaine aussi. Et donc les services sociaux, ils s'en préoccuperaient, on se demande comment ceux qui, alors que je vous donnais l'exemple de Gennevilliers, que ferment, qu'ils ont le plus grand mal, ceux qui s'occupent des services. Je parle, par exemple, centres municipaux de santé qui ferment d'aide aux associations qui ne peuvent plus assurer leur mission. Et que ces gens-là prétendent que ces nouvelles réorganisations, défendues par les mêmes organisations politiques, seraient plus efficaces et ce serait fait pour ça. Là, il y a de l'hypocrisie et du mensonge.
Moi, j'ai constaté qu'autour de la table, les chanteurs n'étaient pas trop pour les réformes en question.
Si on veut parler d'économie, je pense que les subventions aussi...
Pas plus que vous, d'ailleurs, monsieur Andréotti.
Quand je vois les subventions qu'on donne, par exemple, à la CGT, et qui fait énormément de politique...
Alors la CGT, il faut des syndicats, heureusement, parce que les salariés seraient bien nus, hein. Il n'y a que les patrons qui ont le droit à se défendre.
La CGT fait plus de politique que défendre les ouvriers maintenant.
Ça, c'est votre point de vue. Mais c'est pas mon point de vue, c'est le point de vue. Ils sont vite ridiculisés par les salariés qui y sont et qui le connaissent mieux.
La CGT défend juste les personnes. Monsieur, laissez-moi finir.
Qui est fondateur d'ailleurs de la sécurité sociale sous l'occupation, pendant laquelle l'extrême droite. Et qui est. Il y a des fondateurs du Front National dans l'extrême droite vichiste.
Oui. Excusez-moi.
Il faut savoir si vous ne savez pas.
L'extrême gauche qui a tout cassé à Gaïa, qui a profané des monuments morts, là, ça, vous n'en parlez pas.
On va essayer.
Pour rester à la CGT, je défends la CGT. Parce que la CGT est fondatrice.
D'abord, il n'est pas sûr que ce soit l'extrême gauche.
Ah oui, c'est vrai. Oui. Jean-Luc Mélenchon a dit l'extrême gauche.
Est-ce qu'on peut revenir à la réforme territoriale?
Il est très lucide, ce monsieur. Il a bien fait de reprendre sa retraite.
S'il vous plaît, monsieur Bruyne.
On n'est pas là pour parler des syndicats.
Monsieur Courcelles, sur ma question sur l'intégrité nationale, c'est une question qui a lieu d'être posée ou pas du tout?
Non, moi je trouve que c'est pas mettre en danger l'intégrité nationale que d'accepter que la France a ses particularités régionales, a ses langues régionales, a ses sports régionaux, Et du coup, il faut faire une réforme intelligente qui prenne en compte ces différences territoriales. Par rapport à la population, par rapport à la densité, par rapport au relief, par rapport à la démographie, par rapport à tant de choses, on ne peut pas faire une réforme uniforme, ce n'est pas possible.
Une entité territoriale, ce n'est pas seulement un chiffre de population. Hein.
Ben justement.
Oui, des régions fortes, je crois que c'est quand même important. Hein. Et même, enfin, nous serions favorables à Europe Écologie Les Verts à ce qu'il y ait d'autres compétences de l'État qui soient transférées aux régions. Ce qui ne veut pas dire que les régions doivent être autonomes, surtout pas. Au contraire, même elles doivent avoir de fortes collaborations. Bon, d'abord avec l'État, mais aussi avec les régions limitrophes, et ça existe d'ailleurs déjà. Midi-Pyrénées travaille avec l'Aragon, la Catalogne, les Baléares, enfin toutes les régions frontalières de Midi-Pyrénées. Je crois que c'est très compatible d'avoir des régions beaucoup plus fortes, avec beaucoup plus de compétences, et donc bien sûr beaucoup plus de moyens financiers, proches des habitants, proches des communautés de communes, proches des communes. Voilà, et je pense que... tout ce qui est compétences ouvriers. J'étais à une réunion dernièrement où il y avait un sbire du président du conseil général qui commençait à faire peur à tout le monde, à tous les petits élus. Vous vous rendez compte, il disait, quand il y aura de la neige sur le bras, qu'il faudra téléphoner à Toulouse pour faire déneiger. Enfin, c'est totalement ridicule, ce genre de raisonnement. Bien sûr qu'on ne téléphonera pas à Toulouse, on continuera à téléphoner dans l'Aveyron. C'est voilà. Faut pas avoir peur un peu des régions qui sont un peu grosses et qui ont un peu plus de pouvoir. On perdra pas beaucoup de pouvoir localement, mais ça sera peut-être mieux organisé et il y a des économies d'échelle à réaliser.
Oui, monsieur Bourcel.
Donc juste par rapport au propos de monsieur Tranier, par rapport à une grosse région, je pense que l'élu régional ne sera pas plus de proximité si la région reste comme telle qu'elle est ou si elle devient plus importante. Je mets au défi les Aveyronnais de me citer leur élu régional, à part si elle est députée ou si elle a d'autres mandats. Mais je mets au défi, voilà, quiconque de pouvoir citer les... Donc voilà, pour moi, plus grand ne veut pas dire moins de proximité, surtout si l'élu qui siège à la région a également un ancrage territorial, avec du coup, voilà, c'est pour ça que je reviens au délégué territorial qui, pour moi, était la bonne formule.
Alors, la dernière chose que... Monsieur Tranier, oui ?
Oui, je vous remercie. Non, moi, la proximité, je voyais surtout dans le conseil général, c'est vrai. Parce que je vous rejoins... Les conseillers régionaux aujourd'hui sont un peu hors sol, malheureusement. Vous avez posé aussi la question du fédéralisme et de l'unité de la France.
Implicitement.
Oui, je crois pas qu'elle se pose non plus. Si vous voulez, en droit, en fait, le critère du fédéralisme, c'est le pouvoir législatif. Donc, qui en France reste unitaire, qui reste strictement. Au niveau de l'Assemblée nationale, et quand on parle d'États fédéraux comme les États-Unis ou même l'Allemagne, c'est parce qu'il y a ce pouvoir est partagé entre des régions, des Länder ou des États. Bon, on n'en est pas là. Je suis d'accord pour que les collectivités aient davantage de moyens parce que souvent elles travaillent bien, elles sont efficaces. C'est d'ailleurs les Français ils sont attachés. Il faut les adapter. Donc là aussi, vous avez laissé entendre que on n'était pas favorable à l'idée de la réforme. Si, la réforme territoriale est nécessaire, parce que le millefeuille administratif, c'est un problème, et parce que les structures ont besoin d'être adaptées aux réalités, aux vécus, au bassin de vie, par exemple, mais aussi à des régions plus vastes qui ont une pertinence pour l'aménagement du territoire. Le problème, c'est que l'État a tendance à transférer des compétences sans transférer les moyens. Et c'est aujourd'hui...
Les collectivités locales ont tendance à créer les moyens.
Ils ont tendance aujourd'hui, non, à être dans l'embarras fortement parce que l'État leur demande de faire davantage et réduit leurs ressources. Ce qui pose un vrai problème, hein. C'est un effet ciseau, comme on dit.
Surtout quand on paie l'impôt local au mètre carré et au nombre de toilettes.
Mais je suis pas certain que j'ai beaucoup d'exemples en tête, à commencer par celui de Villefranche. Les impôts locaux n'ont pas augmenté depuis 3 ans, sur la commune. Je suis pas certain que l'élu local soit nécessairement dépensier ni fiscalement, exubérant, vous voyez. L'exemple récent montre que c'est plutôt l'élu national qui a ce problème-là.
Donc, on ne ferait pas d'économie, alors, Monsieur Calmette abonde dans mon sens en disant, non,
mais dans la fusion des régions telles qu'elles se dessinent, il n'y a aucune économie. Il y a ça même un coût, parce que des régions vont fusionner avec des statuts, enfin, c'est ce qu'on nous explique, des statuts de personnel qui ne sont pas le même d'une région à l'autre, les statuts vont être alignés, comme c'est tout le temps le cas, sur le plus avantageux, donc il y aura des coûts supplémentaires. Et comme ce découpage n'a pas été réfléchi, puisque tout le monde sait qu'il a été fait en une heure sur un bout de table à l'Élysée, sur une serviette peut-être. Il y a pas de rationalité et donc il y aura pas d'efficacité.
Une serviette en papier, l'Élysée en étant une bague.
Je ne sais pas. Peut-être tissu. Ou alors ils écrivent sur les serviettes en tissu, peut-être, Monsieur Calmette.
Je voudrais qu'on finisse sur les économies, parce que en plus il y a eu des questions nationales de ce point de vue-là, mais apparemment vous avez l'air unanime à dire que de regrouper des collectivités territoriales, ça ne fait pas d'économie. Est-ce que quelqu'un veut dire le contraire?
Juste un mot et après je laisse la parole aux autres. Au niveau local, mutualiser pour une communauté de communes des services, ça fait des économies. C'est-à-dire que si plutôt que 5 ou 6 communes achètent le même équipement, la même machine ou et les mêmes personnels, le fait de les regrouper dans une structure plus importante, ça peut faire des économies. Pas nécessairement, mais ça peut. Après, au niveau des régions, telles que c'est fait actuellement.
Les seules économies qu'on fait, c'est sur les dépenses utiles.
Mais juste, je termine, je laisse la parole, mais au niveau des régions, il n'y aura pas d'économie.
Oui, non,
mais
je ne demande pas de parler autant que vous. Mais je vous connais finir.
Mais en même temps, vous nous parlez des économies agricoles et vous nous dites c'est sur les points utiles qu'on fait des économies. Monsieur Pourcel, alors est-ce que oui ou non on va faire des économies? Est-ce qu'on va avoir moins d'agents à rémunérer? Est-ce qu'on va vendre des locaux ou au contraire est-ce qu'il va falloir en agrandir?
C'est dommage que vous ayez pas un petit sablier pour voir le temps de parole de chacun, comme ça chacun pourrait avoir un temps identique.
En campagne électorale, je fais ça plus rationnellement, mais à table ovale, il ne tient qu'à vous d'animer, messieurs.
Non, l'idée première d'une réforme doit être l'économie. Mais là, telle qu'elle est ficelée, c'est pas du tout le cas.
Alors, si elle était ficelée par l'UDI, comment ferait-on des économies? On n'a pas à la télévision, et votre soupir ne s'entend pas au micro.
Voulez-vous qu'on commence cette discussion à 5 minutes de rendre l'antenne? Je pense que les réformes, on a vu tous les gouvernements qui ont fait des réformes, ont souvent fait des réformes pour les arranger eux-mêmes et pas souvent pour le bien-être collectif et la raison collective. C'est bien ça le problème. Donc je pense que si vraiment on travaillait sérieusement, il y aurait moyen de faire une bonne réforme, de mutualiser beaucoup de choses qui peuvent être mutualisées en gardant un service de proximité. Je pense qu'il ne faut pas perdre cette proximité, surtout sur nos territoires ruraux. Mais je pense qu'il y a moyen de faire une bonne réforme.
Monsieur Brion, est-ce qu'on a un moyen de faire des économies ou pas du tout?
Bien sûr, il y a toujours des moyens. Il suffit de les mettre en place. Déjà, j'insiste sur les doublons et sur les salaires. Je vous l'ai dit, sur les cantons, on réduit les cantons de 2, mais on n'enlève pas d'élus. Donc, comme l'a dit mon
Mais il y a d'autres salaires que ceux des élus. Hein.
Oui, il y a les fonctionnaires aussi.
Il n'y a pas échappé.
Il y a les fonctionnaires, bien sûr. Il y a une aide qu'ils reçoivent pour les enfants, ça a fait débat, en plus de l'allocation perçue par la CAF. Donc pourquoi on ne supprime pas cette allocation? Ils reçoivent le double d'allocation.
Ça n'a pas à voir avec la réforme territoriale.
Oui, mais vous allez faire des économies. Les agents territoriaux, c'est sur le territoire français, donc je pense qu'on peut en parler, faire des économies.
C'est l'austérité à mort, là, que vous nous promettez, là.
Pardon? Excusez-moi, je n'ai pas compris.
C'est l'austérité à fond de cale.
Non, hein, l'austérité, c'est plus votre domaine.
Ah oui.
Ah oui. On l'a bien vu dans cette émission.
Monsieur Calmette, alors, est-ce qu'on peut faire des économies ou non? On réforme territorialement, pas du tout pour faire des économies.
Moi, je pense qu'on peut faire des économies, déjà sur les élus. Pour moi, c'est les premières économies qu'on peut faire. En supprimant
c'est
le département.
C'est l'austérité, ça aussi, monsieur.
Mais vous voulez supprimer le cumul, on va leur donner encore plus d'indemnités, du coup.
On va pas leur donner plus d'indemnités, ils en ont assez d'indemnités. Les indemnités non plus, c'est pas la peine de les augmenter,
cumule,
les élus.
C'est on diminue un peu, quand même.
Il y a un plafond et il y a un lissage, mais
bon,
quand on est député et conseiller régional, on cumule, par exemple.
Président du conseil général cumule très bien.
Et par contre, sur le personnel, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire des économies. Et d'abord, est-ce que c'est souhaitable? Il y a 6 millions de chômeurs en France. Est-ce que c'est aux collectivités à licencier du personnel? Bon, moi, je pense que le personnel qu'il y a dans les collectivités, il le faut, il soit utile pour entretenir nos routes, pour faire les services sociaux. Je pense que le personnel qu'il y a, il le faut, hein. C'est indispensable d'entretenir les lycées, c'est pas sur les charges de personnel qu'on peut faire des économies. Il y a peut-être des économies d'échelle une fois que la région et le département seront unis, mais plutôt dans l'ingénierie à ce niveau-là. Mais dans le personnel de base qui est sur le terrain, je pense qu'il faut pas faire d'économies. On ne pourra pas faire d'économies sur le personnel.
Eh bien non, je vous remercie parce que finalement, donc, vous êtes tous d'accord sur le fait qu'une réforme territoriale est indispensable. Aucun d'entre vous n'est d'accord sur les limites géographiques qu'il faut apporter aux circonscriptions. Et vous êtes tous d'accord pour dire que de toute façon, ça ne fera aucune économie. Bon, au moins, on a avancé ce soir et ce soir, on a avancé avec Angelo Andreotti pour le Parti communiste, Christophe Pourcel pour l'Union démocrate et indépendant, Jean-Louis Calmette pour Europe Écologie et Verts, Laurent Bourillon pour le Front National et Laurent Tranier pour l'Union pour un mouvement populaire. Et tout ça était régulé comme il pouvait par Claude Devezin. À la semaine prochaine. Ah, je vous rappelle que ce sera rediffusé dimanche et que vous pouvez nous écouter quand vous voulez et autant que vous voulez en podcast.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.